comprendre notre vie comme une épreuve, ce qu'elle est depuis toujours, abstraction faite même de la réalité du péché qui est entré dans le monde. De toute façon, notre vie sur terre est une épreuve. Une épreuve parce que cette vie est une vie prédestinée. Une épreuve parce qu'il y a un dessein de Dieu, un dessein éternel de Dieu qui ne peut se réaliser sans l'exercice de notre liberté. Pour ça que le temps qui nous est donné sur cette terre, pour reprendre une expression traditionnelle, c'est le temps de l'épreuve de notre liberté. Et cette liberté qui doit s'exercer, pour bien l'exercer, il nous faut comprendre, donc entrer dans l'intelligence du dessein divin. Ici, je reprends le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens. C'est ainsi que Dieu nous a élus en lui, le Christ, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Littéralement, pour être saints et irréprochables en face de lui, dans l'amour. Déterminant d'avance que nous serions, littéralement ayant prédestiné, nous ayant prédestiné en filiation adoptive par Jésus-Christ, pour lui, selon le bon plaisir de sa volonté. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous sommes faits pour vivre en face de Dieu. Nous sommes faits pour voir le Père, comme le dit Philippe à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Nous sommes faits pour vivre face au Père dans l'amour. Et devenir ainsi fils adoptif par Jésus-Christ. C'est le mystère de notre prédestination dans le Christ qui est la raison d'être de notre création. Dieu ne nous a pas créés en un premier temps et ensuite prédestinés, mais il nous a créés dans le Christ, c'est-à-dire qu'il nous a créés en ayant le mystère de l'incarnation devant les yeux, par lequel nous pourrions entrer dans ce face-à-face et devenir des fils adoptifs par Jésus-Christ. Il y a deux choses dans cette affirmation de saint Paul dans son épître aux Éphésiens. Nous sommes au chapitre 1, au verset 4. Il y a d'abord le fait que nous sommes faits pour être tournés vers le Père et non pas tournés vers nous-mêmes. Nous sommes faits pour regarder Dieu. Une personne qui a vécu une profonde conversion, me disait que le matin, quand elle se réveillait, elle restait dans son lit et elle priait, je lui demandais, mais qu'est-ce que vous faites? Elle m'a répondu, j'ai trouvé ça admirable, elle m'a répondu, le matin, la première chose que je fais juste quand je suis dans mon lit, c'est de regarder Dieu. Mais nous sommes faits pour vivre dans ce regard tourné vers, et nous ne sommes donc pas faits pour nous regarder nous-mêmes. Nous sommes faits pour chercher Dieu, nous ne sommes pas faits pour nous chercher nous-mêmes. Dans la prédestination, il y a et continue l'appel à vivre tourné hors de soi. Nous laissant saisir par la beauté de Dieu, nous laissant saisir par la bonté de Dieu, pour entrer dans ce qu'il faut appeler l'extase, c'est-à-dire cette sortie totale de nous-mêmes qui est possible dans la mesure où, précisément en regardant Dieu, nous nous laissons totalement saisir par lui pour vivre tout entier tourné vers lui. Cette vie tout entière face au Père, tournée vers le Père, c'est celle du Fils. Donc nous sommes créés pour entrer dans cette vie filiale, moyennant le mystère de l'incarnation, et pour devenir donc fils adoptif, c'est-à-dire pour devenir participant de la nature divine. Parce que c'est cette vision de Dieu qui nous transforme. On voit et on participe. Donc l'homme est appelé dès l'origine à être divinisé, mais il est divinisé dans la mesure où il se tourne vers un autre que lui-même, où il rentre dans cette extase qui est l'extase éternelle du Fils bien-aimé du Père, lui-même tout entier tourné vers le Père. Donc il y a deux choses, une vie extatique et une vie divine, participation réelle à la nature divine, qui fait que nous sommes vraiment fils adoptifs de Dieu. Dieu s'est fait fils des hommes pour que les fils des hommes deviennent fils de Dieu. Voilà le dessein éternel de Dieu. Qui fait que nous rentrons dans la vie intime du Père et du Fils, nous participons à leur échange d'amour, cet échange éternel d'amour, et que nous sommes glorifiés dans le Fils, glorifiés de la gloire divine, appelés à une transfiguration total de notre humanité. Et c'est ce dessein qui se réalise, comme dit saint Paul, dans l'amour, moyennant l'amour. Ici, j'insiste sur le fait que l'amour, c'est le moyen, le milieu qui rend possible cette vision de Dieu. Nous ne sommes pas faits simplement pour aimer, nous sommes faits pour voir Dieu. L'amour s'achève dans l'union. L'amour, ce n'est pas le but en soi, l'amour, c'est le chemin, le moyen par lequel nous rentrons dans cette vie divine, par lequel nous parvenons à la vision de Dieu. C'est ce dessein donc divin qui est l'origine de la création et qui est en même temps à l'origine, si l'on peut dire, de la chute des anges. Avant même que l'homme ait été créé, les anges ont, selon la tradition de l'Église, eu comme une révélation de ce dessein divin. Parce que Dieu les a créés pour servir ce dessein divin. Et donc les anges ont été mis face à ce mystère, eux qui ont été créés par Dieu dans un état de foi et d'espérance dans lequel ils ont eu aussi le temps de l'épreuve de leur liberté pour choisir ou non de servir Dieu. Et l'épreuve de la liberté des anges, elle s'est réalisée sur ce terrain de la prédestination de l'homme. Qu'est-ce qui nous pousse à l'affirmer ? Mais une parole du livre de la sagesse qui dit que c'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Oui, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, il en a fait une image de sa propre nature. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Et c'est ainsi que ce temps d'épreuve qui est notre vie sur terre, qui est l'épreuve de notre réponse à l'appel de Dieu, à ce dessein divin, est devenu en même temps un temps de combat, parce que nous avons un ennemi. Nous n'avons qu'un seul ennemi, nous avons un ennemi qui est fort, rusé, et qui sait ce qu'il veut, c'est-à-dire nous détourner du dessein divin. Et donc si nous voulons comprendre ce qui se passe sur terre, il faut comprendre dans la lumière à la fois du dessein de Dieu et de l'opposition du malin à ce dessein divin. Qu'est-ce que la Genèse nous révèle ? Nous révèle que nous avons été tentés dès l'origine, précisément sur ce terrain de notre prédestination. Qu'est-ce que le serpent susurre à la femme ? Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous mangerez de l'arbre, du fruit de l'arbre, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Donc, où se situe la tentation du malin ? Elle se situe d'abord dans le fait de laisser briller à nos yeux la possibilité de devenir comme des dieux, mais sans Dieu. De devenir comme des dieux, mais par nous-mêmes. Comme dit le catéchisme, par la séduction du diable, il a voulu être comme Dieu, mais sans Dieu et avant Dieu, et non pas selon Dieu. « Dans ce péché, l'homme s'est préféré lui-même à Dieu. Et voilà le piège le plus redoutable dans notre vie. Il ne faut pas le chercher loin. Le piège le plus redoutable de notre vie, c'est de rechercher notre propre perfection. Ça peut paraître un peu étrange de dire ça, alors que l'Écriture nous dit « Soyez saints comme Dieu est saint ». Que Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Je ne dis pas que nous ne soyons pas appelés à avancer sur le chemin de la perfection, mais je dis que le piège, c'est de rechercher cette perfection, cette divinisation, comme étant le but de notre vie, alors que le but, c'est quoi ? Ben, le but, c'est l'union à Dieu. Le but, c'est un autre que nous-mêmes. Le but, c'est de voir Dieu. C'est cette vision qui nous transforme de fait, qui nous perfectionne, qui nous divinise. Mais ce n'est pas en cherchant sa perfection qu'on l'atteint, c'est en cherchant Dieu. Ce n'est pas en se cherchant soi-même qu'on se trouve, mais c'est en cherchant Dieu. Or ici, en disant « vous serez comme des dieux », voyez, le malin détourne d'une manière très subtile l'appel divin, puisqu'il fait luire la possibilité d'une divinisation, ce à quoi l'homme est appelé. Mais au lieu qu'elle soit vécue comme la conséquence d'une union d'amour, d'une relation d'amour avec Dieu dans laquelle l'homme s'oublie lui-même, sort de lui-même pour se tourner tout entier vers Dieu, en préférant Dieu à lui-même, cette divinisation est perçue comme non seulement un but en soi, but ultime, mais comme quelque chose que l'homme est appelé à réaliser malgré Dieu, malgré la jalousie de Dieu, malgré un Dieu rival de l'homme qui, en définitive, ne veut pas que l'homme puisse parvenir à cette élévation de lui-même. Mais de quoi le démon se sert-il pour induire l'homme sur ce chemin d'une divinisation de lui-même par lui-même? Il se sert d'une interdiction. Celle de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que nous dit cette interdiction ? Elle nous dit que l'homme est appelé à devenir Dieu en suivant une voie qui est la voie d'enfance. Précisément parce qu'il ne peut devenir comme Dieu qu'en entrant dans le Fils, dans les dispositions d'amour du Fils. Il ne peut voir Dieu que dans l'amour, et dans un amour filial. Et cet amour filial, il a des caractéristiques. C'est un amour confiant, un amour dans lequel l'homme est appelé à se livrer, à remettre sa vie, à se remettre lui-même à son Père du ciel, en renonçant à toute forme de prétention à l'autonomie. Pourquoi l'homme doit-il renoncer à connaître par lui-même, à décider par lui-même de ce qui est bien et de ce qui est mal? C'est pas simplement parce que de fait il est créé avec des lois, les lois naturelles qu'il doit apprendre à respecter, du fait que ce n'est pas lui qui s'est créé, c'est Dieu qui l'a créé, et que ces lois, donc c'est Dieu qui les a fixées, et l'homme doit les accepter humblement en tant que créature. C'est pas simplement ça. C'est que ce qui se joue ici, c'est la capacité, de se livrer, de s'abandonner, de suivre ce chemin d'humilité et de confiance qui est l'unique chemin par lequel l'homme va pouvoir répondre à l'amour de son Père du ciel. L'homme ne peut voir Dieu que s'il aime, et il ne peut aimer que s'il se laisse aimer. Et donc, le fond du combat, il est dans ces dispositions de confiance, de réceptivité, d'ouverture par lequel il va se laisser de plus en plus toucher par l'amour premier de son Père du ciel, par ses dispositions d'une humble confiance filiale qui prend la forme de l'obéissance, d'une obéissance aimante. L'homme va grandir sur la voie de l'amour et se rendre capable donc d'entrer dans une vision toujours plus profonde de Dieu. On peut être ainsi tenté dans notre vie de vouloir aimer sans passer par la porte étroite de l'humilité et de la confiance. On peut même dire que c'est le péché de l'homme moderne de vouloir aimer de lui-même, par lui-même, sans comprendre que l'amour en nous, il a une forme unique, c'est un amour filial. Et que nous ne pourrons pas parvenir à l'extase, à la sortie de nous-mêmes, si nous ne savons pas d'abord nous laisser aimer par notre Père du ciel, comme des tout-petits. Ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu si vous ne vous convertissez pas et si vous ne redevenez pas comme des tout-petits. Ça, le démon le sait. Et donc, en réalité, pour détourner l'homme d'une relation d'amour avec Dieu et pour replier l'homme sur lui-même, il sème le doute. Et la tentation, c'est d'abord une attaque au niveau de la foi, au niveau de la confiance. L'homme tenté par le diable a laissé mourir dans son cœur la confiance, nous dit le catéchisme. Tout péché par la suite sera une désobéissance à Dieu et un manque de confiance en sa bonté. On comprend par là pourquoi saint Paul, à la fin de sa vie, a pu dire qu'il a mené le bon combat, le combat de la foi. La foi, c'est la base de tout, puisque c'est par la foi que nous nous ouvrons à l'amour premier de Dieu et que donc nous nous rendons capables de répondre à l'amour par l'amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'homme a laissé mourir la confiance dans son cœur. Et en même temps qu'il a laissé mourir la confiance, il s'est donc tourné vers lui-même au lieu de se tourner vers Dieu. Et il a commencé une vie foncièrement égocentrique. Et dans laquelle il a perdu donc cette relation d'amour avec son Père du ciel, c'est-à-dire aussi la connaissance qu'il avait de Dieu, même si cette connaissance était imparfaite, l'homme avait été créé dans un état de sainteté, de justice et de sainteté, qui fait qu'il avait déjà, au départ, une certaine connaissance de Dieu. Mais au lieu que cette connaissance donc s'approfondisse par le chemin de la foi, de l'espérance et de l'amour, l'homme a perdu cette connaissance de Dieu. Et du fait qu'il a perdu la connaissance de Dieu, il s'est retrouvé dans un état de fragilité. Dans un état d'insécurité, qui fait que la première conséquence du péché, c'est la peur. Et en même temps, il s'est retrouvé livré à toutes sortes de passions, comme nous le voyons dans ce qui est dit à propos de la relation entre l'homme et la femme. Quand Dieu dit à la femme, ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. L'esprit de domination et l'esprit de convoitise découlent directement du fait que l'homme se recherche lui-même au lieu de chercher Dieu. Il cherche à s'élever lui-même et donc aussi à s'élever au-dessus de son prochain. Il cherche à posséder, c'est-à-dire à avoir en lui-même un appui. Parce qu'au fond de lui-même, il est profondément insécurisé. conséquence du péché originel, c'est que l'homme va se retrouver profondément affaibli du fait qu'il a perdu cette force qu'est la connaissance de Dieu, cette force vitale. L'homme centré sur lui-même est un homme affaibli. Nous ne sommes pas faits pour vivre en nous regardant. Jamais nous trouverons la paix, jamais nous trouverons l'assurance dont nous avons besoin pour mener nos pas avec fermeté tant que nous restons en fait dans cette inquiétude par rapport à soi, par rapport à notre valeur, par rapport à notre perfection, tant que nous resterons dans la recherche d'un idéal de nous-mêmes, nous ne pourrons que connaître au fond de nous l'angoisse et le trouble. La force de l'esprit, c'est d'être nourri de Dieu, nourri de la vision de Dieu. Écoutez ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, au premier chapitre, à propos des païens qui, ayant connu Dieu, ne lui ont pas rendu comme un Dieu gloire ou action de grâce. C'est-à-dire n'ont pas accepté de vivre cette dépendance à Dieu filiale, de rentrer dans cette attitude de confiance dans lequel on se laisse aimer, c'est-à-dire aussi dans lequel on accepte de dépendre de Dieu. Donc ils n'ont pas rendu à Dieu gloire ou action de grâce, ils ont perdu le sens dans leur raisonnement et leur cœur inintelligence est enténébré. En perdant la connaissance de Dieu, l'homme perd la lumière dont il a besoin pour acquérir la sagesse et le discernement. En prétendant connaître par lui-même le bien et le mal, il devient insensé. Dans leur prétention à la sagesse, ils sont devenus fous, dit saint Paul. Aussi Dieu les a-t-il livrés, selon les convoitises de leur cœur, à une impureté où ils avilissent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge. Aussi Dieu les a-t-il livrés à des passions avilissantes. Comme ils n'ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à leur esprit sans jugement pour faire ce qui ne convient pas. Nous sommes ici dans la description de l'état de l'homme pécheur qui se retrouve comme un homme aliéné, lui qui a prétendu devenir comme un Dieu sans Dieu, se retrouve asservi aux passions de la chair. Quand l'âme n'obéit plus à Dieu, le corps n'obéit plus à l'âme. C'est ce que nous montre le spectacle de notre société. Une société qui s'éloigne de Dieu est une société qui s'enfonce dans l'impureté, dans toutes sortes de déviations, notamment au niveau sexuel. nous sommes tous marqués par les conséquences donc de ce péché, tous. Nous avons mordu à l'hameçon et au fond de notre cœur, il y a comme une pression constante, c'est ça le péché originel aussi en nous, c'est une pression constante dans le sens d'une autonomie, d'une indépendance et d'une recherche de nous-mêmes qui prend le pas sur la recherche de Dieu. Et donc ce que décrit là saint Paul nous concerne aussi, hein, c'est-à-dire le fait que nous ayons perdu la maîtrise de nous-mêmes, l'harmonie avec nous-mêmes. L'harmonie avec la création est rompue. La maîtrise des facultés spirituelles sur le corps est brisée, dit le catéchisme. Bien. Si nous nous posons maintenant la question, quel est le chemin du retour ? Quel est le chemin qui va nous permettre de sortir de cette impasse dans laquelle nous nous trouvons quand nous prenons conscience que de fait nous avons perdu la capacité de nous laisser aimer et toucher comme des enfants. Nous avons perdu notre cœur d'enfant et nous ne savons plus trouver le chemin de l'amour véritable et nous ne savons plus non plus trouver donc cette maîtrise de nos actions par rapport à toutes les passions qui nous envahissent. Le chemin du retour, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est Jésus qui l'a fait pour nous. Le chemin du retour, il s'appelle la croix. C'est-à-dire que, à ce refus de dépendre de Dieu, cette prétention donc le démon a réussi à insinuer dans notre cœur, à nous réaliser nous-mêmes par nous-mêmes pour nous-mêmes. Il n'y a qu'une seule réponse, il n'y a qu'un seul chemin de libération. C'est celui que le Christ a ouvert par sa croix. À la désobéissance du péché, Jésus a répondu pour nous en libérer de cette désobéissance, par l'obéissance jusqu'à la mort sur la croix. Au désir de s'exalter soi-même, de s'élever soi-même, de se prendre soi-même comme but, Jésus a répondu par l'abaissement et l'humiliation de la croix. Au doute vis-à-vis de notre Père du ciel, à notre incapacité à nous abandonner totalement à son amour, à cette peur de Dieu, que le démon a réussi à insinuer dans le cœur de l'homme, Jésus a répondu par la livraison et l'abandon filial total de lui-même qu'il a fait quand il a dit juste avant de mourir, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et Jésus a voulu vivre cette remise de lui-même, cet abandon, dans la nuit du péché, c'est-à-dire alors même que il n'expérimentait plus la présence de son Père, alors même que tout dans son humanité était souffrance d'un état de suspension de la communion qui lui a fait dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, abandonné par le Père, Jésus s'est totalement abandonné à son Père pour réparer nos doutes. Lui, le Fils de Dieu, a voulu s'abaisser jusqu'à mourir comme un esclave pour réparer notre orgueil. Et c'est ainsi qu'il est notre victoire. Quand on a l'occasion de participer à un exorcisme, il est frappant de voir à quel point le démon ne peut pas supporter de voir la croix. Quand on approche un crucifix d'une personne possédée pendant la prière de l'exorcisme, la personne détourne la tête pour ne pas voir le crucifix. Et elle ferme les yeux. Et elle se met à crier. En réalité, il n'y a que la croix qui puisse mettre le démon en fuite. Et dans notre vie, c'est quand nous l'acceptons que nous sommes victorieux. Il y a quelques années, ici, dans cette église, je recevais une personne qui avait pendant des années été en contact avec des psychiatres parce qu'elle avait toutes sortes de symptômes étonnants, du style se réveiller la nuit et de se mettre à étrangler son époux. Il était habitué, hein, je vous rassure. Du style à aller à la messe et au moment de la communion être bloqué physiquement pour ne pas pouvoir communier. Et je passe tout ce qui est blasphème dans sa tête, toutes sortes de manifestations qui relèvent pratiquement d'un état de possession. Cette personne était d'un milieu on ne peut plus classique, catholique, et donc le démon pour elle, à la base, ça n'existait pas. Et donc elle a fait 10 ans de soins psychiatriques jusqu'à ce que les psychiatres lui disent qu'il ne pouvait rien. Et à ce moment-là, elle a accepté de se tourner vers un exorciste. Et donc, elle a été amenée à ce moment-là, pendant l'exorcisme, à prendre conscience de la réalité de cet être entièrement perverti qu'est le démon. Et à cette époque, c'est-à-dire il y a bien une quinzaine d'années, je connaissais l'exorciste qu'elle voyait, et donc il avait demandé de venir me voir pour se confesser. Il est venu me voir, et alors pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est parce que cette brave dame qui était en butte à une persécution du démon, elle, en parlant avec elle, elle a reconnu que tout ce qui lui était arrivé lié à ses attaques du démon, ben, finalement l'avait rapproché de Jésus. Parce qu'avant, pour elle, la croix, Jésus, la rédemption, c'était des choses un peu abstraites, mais en étant confrontée en direct, si je puis dire, avec la réalité du mal, elle avait appris sur le terrain, d'une manière très forte, que de fait, son unique victoire et son unique sauveur, c'était bien le Christ. Et donc, comme Dieu le fait, comme il le fait toujours, en fait, il tourne les attaques du malin à sa gloire. Et alors, à un moment, en l'écoutant, j'ai senti dans mon cœur que ce qu'elle souffrait de la part du démon, c'était pas simplement pour sa conversion, pour l'amener à mettre davantage encore sa foi en Jésus, mais que si elle souffrait toutes ces épreuves, c'était aussi parce que Jésus lui demandait de porter sa croix. Et les attaques du malin, ça peut être une grande croix. Et au moment où cette pensée m'est venue, plus précisément au moment où j'ai prononcé le mot croix, en lui disant que ce qu'elle vivait au fond, c'était la croix de Jésus, au moment où j'ai prononcé ce mot croix, elle a changé de regard, son visage s'est déformé, et son mari était là, lui il avait l'habitude, mais elle s'est jetée sur moi pour m'étrangler. Son mari l'a retenue, et finalement on s'en est sorti à prier à trois prêtres pendant une heure et demie pour pas grand chose, parce que en réalité on n'avait pas le pouvoir d'exorciser cette personne, mais on a, disons, à force d'eau bénite et d'invocation à la Vierge Marie, au Sacré-Cœur, on a fini par calmer un petit peu le malin qui était déchaîné à cause de quoi? Parce que j'avais prononcé le mot de la croix. Il n'en fallait pas plus. On apprend beaucoup dans ces situations-là. Et vous voyez, si dans notre monde on a autant de mal à parler de la croix, si pour certaines personnes c'est quelque chose de doloriste, dont il vaut mieux pas parler, tout ça, c'est essentiellement parce que nous sommes tous attaqués sur ce terrain. En réalité, la croix, c'est notre plus grande force. Puisque c'est quoi la croix? C'est l'humilité, l'abandon de Jésus qui nous est offert comme chemin de victoire sur ce qui est à la racine de tout péché, c'est-à-dire l'orgueil et la non-confiance en Dieu. Donc quand nous nous saisissons de la croix et que nous mettons notre espérance en elle, loin de nous charger d'un fardeau supplémentaire, en réalité, nous nous donnons à nous-mêmes le moyen de la victoire sur toute forme de mal. Voyez, on peut avoir l'impression que avec de la bonne volonté, avec des prières aussi, de la bonne volonté et un peu de sagesse, on va arriver à transformer les situations de notre vie ou les situations autour de nous. Mais plus on avance dans le combat spirituel, plus on se rend compte que tant qu'on ne s'est pas remis devant la croix, tant qu'on n'a pas épousé ce mystère, et on peut toujours l'épouser, la croix, il n'y a pas de victoire radicale. Pour vous le faire comprendre, je vous invite à méditer avec moi ce qu'a été le parcours de vie de Jean-Paul II en tant que pape. Jean-Paul II a commencé son pontificat comme un grand contemplatif, un visionnaire. Il disait lui-même « Je me sens porteur d'un message, pénétré de la profondeur de sa foi, de sa réflexion de théologien, de philosophe. Il a voulu donner au monde essentiellement ce message que l'homme ne peut se trouver que n'est révélé à lui-même que s'il laisse d'abord Dieu se révéler à lui. C'est en donc se tournant vers Dieu que l'homme récupère son humanité véritable. Il a lancé ce message face au drame de l'humanisme athée qui hantait son esprit. Donc pour lui, il y avait une vérité à faire passer. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. L'homme ne se réalise en tant qu'homme que dans la mesure où il s'ouvre à la révélation de Dieu et de son amour. Ça rejoint ce que je vous ai dit, c'est au cœur de la bonne nouvelle. Jean-Paul II a déployé toute son énergie de jeune pape pour faire connaître au monde cette vérité. Est-ce que ça a suffi? Osons dire non. Quand en 1994, il s'est retrouvé pour la deuxième fois hospitalisé en long séjour, non plus suite à une tentative d'assassinat, mais suite à une chute malheureuse, vous vous souvenez, dans sa salle de bain. Il s'est cassé le col du fémur. Il a eu ces paroles étonnantes. Il a dit qu'il pensait, quand il avait commencé son pontificat, que par la prière et par l'apostolat, il pourrait donc faire entrer l'Église dans le troisième millénaire. Et il a dit qu'il s'était rendu compte que pour faire passer l'Église dans le troisième millénaire, il manquait, il fallait un évangile supérieur, il fallait la croix qu'il était en train de vivre. Il ne savait pas encore à quel point cette croix, il devrait la vivre jusqu'au bout. Mais vous voyez, entre le Jean-Paul II sportif de Dieu et celui qui est allé jusqu'au bout d'un chemin d'abaissement, d'humilité, d'abandon, il y a toute la différence entre, je dirais, une action qui est qui est bonne, mais qui ne va pas jusqu'à la racine du mal, et une action qui est rendue parfaite parce qu'elle est tout entière communion à la passion de Jésus. Et que c'est ça la seule vraie force qui peut soulever les montagnes. Et on l'a vu au moment de sa mort, la puissance, l'énergie extraordinaire qui découlait de son abandon, de ce chemin d'humilité et d'abandon. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, cette communion au Christ dans le mystère de sa passion est le seul moyen de libérer l'homme, je dirais, radicalement de l'emprise du péché. Il n'y a que la croix qui puisse nous purifier de la morsure du venin du serpent. Rappelez-vous l'image du serpent, des serpents qui avaient mordu les Juifs dans le désert. Hein, c'est l'image de la tentation originelle qui nous a mordus. Nous avons tous, nous sommes tous plus ou moins complices de cet esprit d'autonomie, d'indépendance et de cette recherche d'esprit de recherche de nous-mêmes, d'exaltation de nous-mêmes. Et comment, face à cette morsure des serpents, bon, Dieu a demandé à Moïse d'élever un serpent d'airain dans le désert. Et Jésus reprend cette image quand il dit « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle. » Alors, qu'est-ce qui nous sauve radicalement ? Mais le fait de tourner notre regard vers Jésus crucifié, et de nous laisser attirer, entraîner par lui sur le chemin de l'humilité et de l'abandon et de la confiance aveugle. Élevé de terre, j'attirerai tous les âmes à moi, j'attirerai tous les âmes à moi sur ce chemin d'humilité, de confiance et d'abandon, de telle manière qu'il soit libéré radicalement de l'emprise du malin, de l'emprise du péché, qui trouve à sa source toujours la non-confiance et l'esprit de désobéissance, d'autonomie. Les images que nous avons gardées de Jean-Paul II, c'est les images d'un homme éprouvé donc dans tout son être, mais tenant dans les mains un crucifix et baisant ce crucifix. Porter la croix pour être victorieux du mal par l'amour, ça signifie pas rechercher la souffrance, évidemment, ce serait encore un vouloir humain. Ça signifie pas, demander à Dieu de pouvoir souffrir davantage, comme l'ont demandé, il est vrai, certains saints. Mais ça signifie plus simplement laisser dans l'épreuve de la souffrance laisser Jésus transformer cette épreuve de la souffrance, qu'elle soit liée à nos péchés ou aux péchés des autres, la transformer en un chemin de victoire sur le mal en nous-mêmes et dans les autres, de telle manière que ce qui est lié au péché, comme dit Jean-Paul II, la souffrance qui était liée au péché puisse être liée à l'amour et devenir la matière dont l'amour se sert pour parvenir à sa perfection. Et cela se réalise donc dans la mesure où nous contemplons Jésus dans sa gloire, la gloire de la croix, c'est-à-dire dans le rayonnement de cet amour pur qui passe par l'humilité et l'obéissance. Et donc quand Benoît XVI dit que la contemplation de Jésus c'est la base de tout, je dirais ici, dans cet enseignement sur le combat spirituel, que la contemplation de Jésus crucifié est effectivement la base de toute victoire, puisque c'est par cette contemplation que nous pouvons donc épouser la croix au lieu de buter sur elle, et trouver en elle donc le secret de la victoire. Pour moi, quand je suis venu chez vous, frères, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige de la parole et de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parole de saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, au verset 1 et 2. Qui nous rappelle que nous sommes faits pour vivre, donc d'abord face à Jésus crucifié, et que c'est uniquement par lui que nous pouvons retrouver le chemin qui conduit au Père, le chemin de cet amour filial, qui nous permettra un jour donc de connaître le Père face à face, et de trouver dans cette connaissance du Père la vie en abondance, en surabondance, dans la mesure où nous aurons accepté de nous laisser sauver par Jésus, de nous laisser purifier jusqu'au bout de ce péché qui est à la source de tous les autres péchés, et qui est le péché originel en chacun de nos cœurs. Je terminerai simplement en vous invitant aussi à méditer sur le fait que Jean-Paul II, qui a terminé son pontificat en nous présentant l'évangile de la croix, a aussi voulu laisser comme héritage à l'Église le fait que l'Eucharistie, dans lequel est célébré ce mystère, et le centre de chacune, le cœur de chacune de nos journées. C'est le feu de l'amour du crucifié, le feu qui est dans le cœur du crucifié, et ce feu de cet amour nouveau qui prend la forme de l'obéissance, de l'abandon dans l'humilité, et la confiance. Il nous est donc donné ce feu, il nous est donné à chaque fois que nous communions. Dans tous nos combats spirituels, pensons que nous avons un refuge. Notre ultime refuge, qui est le mystère de l'Eucharistie. Et que quand nous nous sentons incapables de résister à toutes sortes de tentations qui nous envahissent, eh bien, faisons tout pour remettre l'Eucharistie au centre de notre vie, pour pouvoir trouver dans ce sacrement, d'une manière gratuite, tout ce dont nous avons besoin pour résister à l'emprise du péché. Encore une fois, l'humilité du Christ, son offrande, son abandon, la douceur de sa présence aimante, tout ce dont notre âme a besoin pour remonter la pente nous est donné dans ce sacrement. Et c'est pour ça que quand Benoît XVI a terminé le synode sur l'Eucharistie qu'avait voulu Jean-Paul II, il a terminé en disant que l'Église devait repartir de l'Eucharistie. Jean-Paul II avait intitulé son encyclique « L'Église vit de l'Eucharistie ». Actuellement, l'Église, elle est tellement pauvre, elle est tellement, marquée par la fragilité et la faiblesse en France, qu'elle est comme une personne qui se retrouverait en salle de réanimation et qui aurait absolument besoin d'être sous perfusion pour pouvoir échapper à la mort et retrouver le chemin de la vie. Eh bien, notre perfusion quotidienne, c'est l'Eucharistie. Nous avons absolument besoin de cette perfusion parce que nous avons trop absorbé du venin du serpent. Nous sommes tous trop contaminés par cet esprit d'autonomie, de suffisance, d'orgueil, de désobéissance. Et donc il faut passer aux soins thérapeutiques d'urgence. Et pour ça, une transfusion de cœur à cœur du sang de Jésus dans notre sang pour que ce soit à nouveau l'amour qui nous fasse vivre et qui nous permette donc d'accomplir notre mission sur la terre, c'est-à-dire d'être les instruments de la victoire du Christ sur le mal, auprès de tous ceux auxquels nous sommes envoyés. Nous demandons avec Jean-Paul II à la Vierge Marie de nous aider à entrer dans cette contemplation de Jésus et dans cette vie eucharistique, de trouver là le secret de notre victoire. Pour cela, je reprends une prière de Marthe Robin. Ô bienheureuse Vierge, ma divine Mère, donnez-moi vos yeux si purs pour contempler Jésus. Donnez-moi votre cœur pour l'aimer. Gravez profondément en mon âme l'image si douloureuse et pourtant si rassurante de sa passion et de sa glorieuse résurrection. Afin qu'ayant toujours Jésus présent à mon esprit et à mon cœur, je vive jusqu'à ma mort d'une vie toute sainte, toute pure, toute humble, toute cachée en Dieu, avec Jésus et vous, ma bonne mère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.